Docteur Tedril de Brent, Histoire, Littérature et Théologie de l'OT, Conférence 9. Symbole Copyright 2020, Docteur Tedril de Brent. Il s'agit du Docteur Tedril de Brent dans la Conférence 9 d'Histoire, de Littérature et de Théologie de l'Ancien Testament sur Abraham, Sodome et Gomorre, l'Akeda ou la liaison d'Isaac et le début de l'histoire de Jacob. A aperçu du quiz entre minuit et 1h20. Cours, commençons. Pour la semaine prochaine, vous travaillez sur le livre des nombres et il ne s'agit que de certains chapitres de nombres. Les nombres sont un gros livre, il y a beaucoup de généalogies au début. Nous sauterons certaines généalogies afin que vous ne lisiez que les passages principaux sélectionnés. Il y aura un article « Je ne sais pas si c'est notre père Abraham » et des versets à mémoriser. Ce sera pour jeudi prochain et le jeudi suivant, nous aurons notre premier examen. Nos examens sont différents de nos quiz. Les examens portent sur ce dont nous parlons dans les cours et les versets à mémoriser. N'oubliez pas les versets à mémoriser qu'ils reviendront, sauvegarderont et sauvegarderont. Pensez aux conférences. Il existe d'anciens guides d'études si vous souhaitez les consulter juste pour vous y préparer. Ce sera la semaine après jeudi prochain. B. Abraham, c'est ma sûre entre 1h21 et 6h32. Nous allons essayer de parcourir une partie du livre de la Genèse aujourd'hui. Nous allons traiter d'Abraham et, espérons-le, sortir d'Abraham et entrer dans Jacob et Isaac. Nous souhaitons donc aller assez vite. Certains des sujets que nous aborderons aujourd'hui seront plutôt délicats, je vous demande donc de faire preuve de patience à cet égard. Vous ne pouvez pas vraiment discuter de tous les aspects de ces choses, car ce sont des questions complexes. Nous allons commencer par Abraham. Il y a quatre questions qui reviennent dans la vie d'Abraham et dont je souhaite discuter. L'un d'eux qui revient se trouve dans les chapitres entre 12 et 20. Il le fait deux fois, il dit, c'est ma sûre. Sarah est tellement magnifique et elle a 75 ans, ça devait être différent à l'époque. Le roi va donc la draguer. Alors, dis au roi que tu es ma sûre, pour qu'il ne me tue pas. Alors ça arrive. Puis plus tard, cela se reproduit, dis que tu es ma sûre et épargne-moi. Au chapitre 12, c'est Pharaon et plus tard, c'est Abimélec des Philistins. Que se passe-t-il avec cette routine, tu es ma sûre? C'est plutôt intéressant. Est-ce que tout le monde se souvient qu'Isaac fait la même chose avec Rebecca, ch 26? La pomme ne tombe pas de l'arbre. Vous voyez cela se produire, la même histoire se produit trois fois. Tout le monde dit que ce n'était pas un mensonge parce qu'elle était la demi-sûre d'Abraham, mais était-ce pour tromper? Je vais dire qu'Abraham mentait. Pourquoi tout le monde veut-il épouser la sûre? Certaines personnes ont suggéré que cela remonte à certaines coutumes du Proche-Orient, lorsque vous voyez quelque chose se produire à plusieurs reprises, quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, soupçonnons qu'il s'agit peut-être d'un problème culturel. Je pense que ce qui se passe ici, et il y a différentes façons de voir les choses, il y a différents ensembles de coutumes qui peuvent être appliqués à ce passage. Soit dit en passant, Dr Gordon Jamberger, si vous visitez le site web de Genesis, il a 48 sermons sur le livre de Genesis. Le Dr Gordon Jamberger, de Park Street Church, est probablement l'un des plus grands prédicateurs que j'ai jamais entendu. Il est juste incroyable. Il a une vision différente de cela, mais ce qui se passe, je pense, c'est que Abimélec et Pharaon voient ce type proposer cette femme. Dans le monde antique, une femme avait-elle besoin d'un protecteur? Même à l'époque moderne, les femmes ont parfois besoin de protection. Ce que je pense, c'est qu'elle est une femme à elle seule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un homme voyait une femme seule et venait l'adopter comme « sûre ». Cela signifie qu'il viendrait et serait le frère protecteur et ce qui se passerait, c'est que lorsqu'elle se marierait, le frère protecteur recevrait la dot. Il la protège, elle se marie et il récupère l'argent. Vous pouvez donc voir comment les deux pourraient en bénéficier. Ainsi, quand Abraham dit, c'est ma sûre. Le roi dit, ok, ce type veut probablement la marier, alors je vais l'emmener dans mon harem, puis je paierai ce type. C'est donc peut-être ce qui se passe. Dieu protège-t-il Sarah? Maintenant, je ne dis pas que ce que Sarah a fait était bien ou mal, mais probablement dans cette culture, c'est quelque chose que vous avez fait pour sauver votre propre vie. Il semble que Dieu l'ait protégée lorsqu'elle entrait dans le harem. Vous vous souvenez du roi qui a fait un rêve la nuit dans lequel Dieu dit, « Si tu la touches, tu es un homme mort. » Le gars sort et dit à Abraham, « Et, tu as dit que c'était ta sûre, c'est une sacrée sûre que tu as ici, mon pote, et ça se passe comme ça. » Pourquoi Dieu voudrait-il protéger Sarah? Qui va avoir l'enfant appelé Isaac et si elle est gâchée avec le pharaon ou Abimélec alors l'enfant ne appartiendra pas à Abraham. Donc, dans les deux cas, Dieu la protège de cela afin qu'on sache qu'il s'agit de l'enfant d'Abraham. Je pense donc que Dieu intervient et la protège à cause de la lignée qui passera par Isaac. Ce sont des histoires intéressantes, cette coutume d'adopter et de protéger cette sœur puis de la marier. Je pense que cela faisait simplement partie de cette culture, même aujourd'hui, il y a des moments où les femmes ont besoin de protection. Mais vous dites que les femmes sont tout aussi bonnes que les hommes. Ma femme emmène la voiture chez le mécanicien automobile, est-ce différent de quand je la prends? Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Bref, vous dites que vous avez un excellent mécanicien, eh bien, je n'ai pas réussi à trouver trop de mécanismes comme celui-là. Ces visites angéliques, loi de l'hospitalité entre 6h33 et 13h03. Au chapitre 18, trois gars viendront chez Abraham. Ces trois gars viennent et me laissent travailler un peu avec ça. Chapitre 18 verset 1, l'Éternel apparut à Abraham près des grands arbres de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et vit trois hommes debout à proximité. Lorsqu'il les aperçut, il sortit précipitamment de l'entrée de sa tente pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Alors, que fait-il? Il invite les gars dans sa tente et leur lave les pieds. Encore une fois, est-ce ce que vous avez fait aux gens traversant le désert? Vous les avez autorisés à entrer dans votre tente. Celles-ci sont appelées « lois de l'hospitalité ». Ces lois de l'hospitalité sont vraiment importantes dans le désert. Il était une fois, je crois, pour trois nuits environ, nous étions restés dans un contexte bédouin. C'était une tente bédouine et ils avaient des chameaux bédouins. Nous devons donc monter ces chameaux. Une nuit, le gars est parti jouer de ce petit truc de lutte et le bédouin est parti pendant environ 3 heures en racontant des blagues sur les chameaux. Je ne savais juste pas que tu pouvais faire ça. Mais ce type est parti en décrivant chacun de ses chameaux, chacun ayant une personnalité différente. Je devrais dire que si jamais vous avez la chance de monter un chameau, les chevaux sont à peu près aussi larges et les chameaux sont à peu près aussi larges. Donc, quand vous montez à dos de chameau, je faisais pas mal de taekwondo, mais quand vous essayez de monter sur un de ces chameaux, c'est trop gros de cette façon, donc pendant 45 minutes, vous êtes divisé, que vous vouliez être divisé ou non. Alors, quand vous descendez, avez-vous déjà vu ces films de cow-boys où les gars marchent les jambes arquées? Quand je suis descendu du chameau après 45 minutes, je ne pouvais pas redresser mes jambes. D'ailleurs, les chameaux ont des personnalités différentes. Encore une histoire sur les chameaux et nous reviendrons ensuite aux bédouins. Quand vous montez sur un chameau, ils s'agenouillent et poussent leur queue vers le haut, donc vous êtes sur cette chose et elle vous projettera en avant comme si vous alliez partir. Puis l'avant apparaîtra et vous le ferez. Être debout. Au fait, quand tu es à dos de chameau, y a-t-il des chameaux là-haut? Vous êtes en hauteur. Alors je monte sur mon chameau et je les ai déjà observés, alors je me balance en avant puis en arrière. Eh bien, j'avais cet ami, eh bien, ce n'était pas vraiment un ami, mais c'était ce garçon Baptiste du Sud et il mesurait environ 6 minutes 4 secondes et il pesait environ 350 livres. C'était un grand garçon. Eh bien, je vous ai dit que ces chameaux ont des personnalités, alors ce grand vieux garçon Baptiste du Sud monte sur le dos de ce chameau et vous regardez, et nous mountains, et puis tout d'un coup, il monte et vous voyez ce genre de chameau où ce type est un peu lourd, je ne veux pas le porter. Donc ce chameau se retourne sur le côté et fait rouler ce mec tout de suite, puis se redresse. Le chameau regarde comme pour dire, « Mec, tu es trop gros pour ça. » Alors il l'a roulé et nous en avons bien ri. Pour en revenir aux Bédouins, ils ont ces lois de l'hospitalité. Alors le Bédouin qui était là dit, alors ton ennemi mortel se présente à la porte de ta tente, les lois de l'hospitalité dans le désert sont sérieuses. Dans le désert, les gens meurent faute d'eau, mais même s'il est votre ennemi mortel, vous devez nourrir et héberger votre ennemi mortel pendant 3 jours. Maintenant, ce que vous faites, c'est le nourrir et le loger pendant 3 jours, puis vous le tuez. Mais vous devez pratiquer cette loi de l'hospitalité pendant 3 jours. Ainsi, lorsque vous êtes dans le désert, vous devez respecter les lois de l'hospitalité et aider ceux qui en ont besoin. Cela a-t-il un sens quant à la façon dont ils travaillent ensemble dans le désert? Les difficultés engendrent la communauté. Au fait, vous le savez, il y a eu un combat en Afghanistan, c'était le combat le plus haut qu'il ait jamais eu, je pense que c'était à environ 10 000 ou 11 000 pieds. Il y avait ces phoques de la marine là-haut et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été encerclés par les talibans et ont été éjectés de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que les talibans ont eu raison d'eux et 3 d'entre eux ont été tués et l'un d'eux a été abattu et il a rampé jusqu'à cette ville du nord de l'Afghanistan. Quand il est arrivé là-bas, on ne les appelle pas cheikh là-bas, c'est le terme arabe, je ne sais pas comment les appellent les pachtounes. Mon fils les appelle anciens, mais je ne connais pas le mot pachtoun. Quoi qu'il en soit, ils viennent voir les anciens de la ville, et ce type arrive en rampant après avoir été abattu, et l'aîné vient le voir et une fois qu'il est dans la ville et approuvé par l'aîné pour être dans cette ville, alors cette ville faut-il le protéger? Cela fait partie de leur loi. Les talibans l'ont pourchassé et sont arrivés en ville et lui ont dit, « Eh, vous avez un Américain là-dedans. » L'aîné aurait-il combattu les talibans et détruit la moitié de sa ville pour protéger ce type? Oui, il l'aurait fait. Une fois sur leur territoire, c'est comme si nous devions protéger ce type. Ce type était protégé grâce à ses lois de l'hospitalité. A-t-il survécu? Oui, il l'a fait. Un élève du dernier cours a en fait le livre parce que le gars a fini par écrire un livre. Il a été grièvement blessé par balle et il se trouvait dans le nord de l'Afghanistan. Le nom du livre est The Lone Survivor. Ce que je veux dire, c'est, les lois en Afghanistan fonctionnent-elles toujours comme au temps biblique? Je veux dire, c'est vraiment incroyable parce que vous remontez des milliers d'années en arrière et ils font toujours des choses très similaires, en termes de ces lois de l'hospitalité. Ce qui se passe ici, c'est qu'Abraham accepte ces gens, il les nourrisse, il leur lave les pieds, puis ces gars se tournent vers Abraham et disent, « Abraham, Sarah va avoir un enfant. » Que fait Sarah? Elle rit et c'est pourquoi il nomme plus tard le fils, rire, ou Isaac, ce qui signifie, rire. Dès Sodome et l'eau entre 13h04 et 13h44. Les 3 gars sont là et commencent à regarder vers la mer morte. Puis ils se demandent s'ils devraient dire à Abraham ce qu'ils vont faire. Eh bien, Abraham sera le père de nombreuses nations, nous devrions donc probablement lui dire ce que nous allons faire. Alors ils disent, « Ok, Abraham, nous allons descendre là-bas et fumer Sodome et Gomorre. Nous allons détruire Sodome et Gomorre. » Maintenant, quel est le problème d'Abraham avec ça? Qui est là-bas à Sodome? Son neveu, Lot, est là-bas avec ses enfants, ses nièces. Alors Abraham a-t-il un problème? Ils vont descendre là-bas et faire exploser la ville et Abraham pense, je dois arrêter ça pour le bien de Lot. Le troc avec un dieu interactif entre 13h45 et 17h53. Ainsi, au chapitre 18, verset 20, il est dit, « Ainsi dit l'Éternel, le cri contre Sodome et Gomorre est si grand, et leur péché est si grave, que je descendrai et verrai si ce qu'ils ont fait est aussi mauvais que le tollé qui m'est parvenu. Sinon, je le saurai. » Il se tourne alors vers Sodome, qui saute sur leur chemin et leur dit, « Attendez une minute, vous ne pouvez pas descendre là-bas et les faire exploser comme ça. » Alors Abraham resta debout devant le Seigneur et demanda, « Vas-tu balayer le juste avec le méchant ?» Voyez-vous comment Abraham applique ces choses parce qu'il sait que le Seigneur respecte les justes. Alors il demande, « Et s'il y avait des justes là-bas? Voudriez-vous fumer ou faire exploser ces gens qui sont là-bas même s'il y a des justes là-bas? Et s'il y avait 50 justes là-bas? Maintenant, dans cette culture, font-ils du troc? Lorsque vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, vous entrez et ils vous disent immédiatement, « Oh, mon ami d'Amérique, prix spécial pour toi aujourd'hui, mon ami. Ensuite, il vous indique un prix trois fois supérieur à ce que cela vaut réellement, un prix spécial rien que pour vous. Est-ce que tu fais du troc avec ce gars? Vous échangez ce type à moitié prix et vous sortez de là en pensant, mec, je l'ai eu à moitié prix, j'ai eu un marché. Il s'éloigne en disant, j'ai ce type. Mais c'est comme ça que ça marche, on troque pour tout là-bas. J'ai eu des mecs, comment dire ça? Ma femme, par exemple, a pu monter à dos de chameau, mais le gars lui a attrapé la jambe un peu pour qu'elle puisse monter sur le chameau, c'est ce qu'elle a dû faire pour monter sur le chameau. Un gars m'a proposé, je pense que c'était trois chameaux pour ma femme et je lui ai dit, non, j'en voulais au moins cinq. J'ai aussi eu des hommes qui ont essayé de me vendre leur fille, et c'est la vérité honnête, ils ont essayé de me vendre leur fille, mais cela fait simplement partie de la culture. Vous devez faire avec. J'y suis resté longtemps, j'y ai vécu un an et nous sommes restés environ trois semaines dans le Sinaï avec les Bédouins, mais il y avait du troc partout là-bas. Abraham dit, Dieu, s'il y a là-bas 50 justes, détruiras-tu les justes? Dieu dit, ok, je ne ferai pas ça pour 50 justes. Alors Abraham dit, eh bien, qu'en est-il de 45? Il fait du troc avec Dieu et finalement il dit, détruiras-tu la ville pour 10 justes? Et Dieu dit, d'accord, je ne détruirai pas la ville si vous parvenez à trouver 10 justes. Quelle était la préoccupation d'Abraham? La préoccupation d'Abraham était l'eau. Dieu va-t-il prendre soin des préoccupations d'Abraham? Oui, mais va-t-il aussi s'occuper de son souci et continuer à fumer la ville? Oui, donc il le ramène à 10. Je veux juste regarder cette interaction entre Abraham et ses anges et il s'avère que c'est Dieu lui-même. Est-ce une véritable interaction? Dieu et ses anges interagissent-ils réellement avec Abraham ou Dieu savait-il ce qu'il allait faire depuis le début et il ne fait que jouer à des jeux avec Abraham? Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il s'agit d'une véritable interaction. Je pense que ce que vous avez ici est un véritable être humain interagissant avec ces êtres divins. Je ne pense donc pas que la prescience vous sorte de là. Eh bien, ce qu'il allait faire, c'est ce qu'il allait toujours faire, mais cela ne résout pas le problème. Je pense qu'il s'agit d'une interaction réelle et légitime entre un être humain donné dans ce contexte, il l'a troqué à 10. Je ne pense pas que la prescience s'explique cela, je pense que c'est une véritable interaction, mais il faut être prudent. F. Langage anthropomorphe et anthropopathique. 17, 54-21, 19. Il y a deux termes que je veux vous présenter. Est-ce simplement un langage anthropomorphique? Maintenant, qu'est-ce qui est anthropomorphique? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie anthropo? Est-ce que j'ai des étudiants grecs ici? Anthropo signifie, les gens, les humains et l'humanité, ce genre de choses. Anthropo et l'humanité est, morphique, l'est, quand quelque chose la transforme, quoi. Cela change de forme. Anthropomorphique signifie que vous représentez Dieu en termes humains. Laisse-moi faire ça pour toi. L'Écriture dit, les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu ont-ils des jambes sur eux pour qu'ils courent ça et là sur toute la terre? Il parle de la main du Seigneur, de sa main puissante et de son bras tendu lorsque vous lisez le livre de l'Exode. Il utilise des termes humains pour parler de Dieu. C'est ce que vous appelez anthropomorphique, lorsqu'on utilise des termes corporels humains pour parler des yeux, de la bouche et du visage de Dieu. Il y a une personne que je connais qui vient d'écrire un livre entier sur le visage de Dieu et la présence de Dieu, voir Dieu face à face. L'anthropopathie est différente. Anthropo, c'est l'humanité, on peut le revoir, mais au lieu de la forme, anthropomorphique, c'est anthropopathique. Cela signifie que Dieu est représenté avec des émotions humaines et du pathos. Vous avez suffisamment lu l'Ancien Testament maintenant, as-tu vu Dieu se mettre en colère? Oui. Eh bien, certains disent, Dieu ne se met pas vraiment en colère, c'est Dieu et il n'a pas de sentiments humains. Je veux vous suggérer qu'il est très probable que Dieu ait des émotions. Nous décrivons Dieu en termes humains, mais au fait, avons-nous une base pour le faire? Nous sommes faits à l'image de qui? Nous sommes créés à son image, c'est pourquoi j'aimerais suggérer qu'il est très probable que Dieu ait des émotions. Dieu a-t-il des émotions d'amour et de compassion? Nous voyons l'amour et la compassion de Dieu et nous voyons aussi la colère de Dieu. Anthropomorphique signifie qu'il est représenté en termes humains, comme les mains du Seigneur et le visage du Seigneur, sous une forme physique humaine. Morph signifie forme. L'anthropopathie décrit le fait de donner à Dieu des émotions humaines comme l'amour, la compassion et la colère. Dans Genèse 6, il est dit, « Et l'Éternel fut attristé de ce qu'il avait créé l'homme. » Il y a eu un très bon commentaire fait dans ce cours sur la volonté de Dieu de détruire toute l'humanité. Il faudra y revenir dans un autre contexte. Dieu était attristé est une description anthropopathique. Certaines personnes veulent suggérer que Dieu ne fait pas vraiment de troc avec Abraham, mais qu'il est simplement décrit comme faisant cela. Ce n'est pas réel, Dieu sait ce qu'il va faire et ce n'est pas réel. C'est juste que Dieu est représenté en termes humains. Je veux suggérer que c'est réel et que Dieu entre réellement en interaction avec l'humanité. J'ai un être humain peut-il avoir un impact sur Dieu? Entre 21h20 et 22h13. Cela soulève une question, un être humain peut-il avoir un impact sur Dieu? Rappelez-vous que nous avons vu dans Genèse 6, les fils de Dieu épouser les filles des hommes et nous avons vu le Hamas, il y avait de la violence sur la terre. Ces gens ont-ils suscité la colère et le chagrin de Dieu? Oui. Ce que je suggère, c'est que les êtres humains peuvent avoir un impact sur Dieu et c'est assez incroyable pour moi que Dieu se laisse influencer par ce qui se passe sur terre. Il est réellement impliqué dans tout cela et il s'en soucie vraiment. S'il s'en soucie, alors il va s'impliquer et cela va avoir un impact sur lui en bien ou en mal, en colère ou en amour, en gentillesse ou autre. Je soulève simplement la question de la capacité des humains à avoir un impact sur Dieu. C'est assez incroyable quand on y pense. H. Sodome et Gomorre, viol homosexuel 22, 14-42, 35. Maintenant, la prochaine sera plus difficile et nous aurons des choses difficiles à discuter ici. Alors ils descendent à Sodome et Gomorre au chapitre 19 puis, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de la ville, quand il les vit, il se leva à leur rencontre et il se prosterna. Face contre terre, mon Seigneur dit-il, tourne vers la maison de ton serviteur, tu peux te laver les pieds et passer la nuit, puis repartir tôt le matin. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Maintenant, Lot veut-il qu'il passe la nuit sur la place? Non, parce que Lot sait ce qui se passe là-bas. Alors Lot les pousse et il est dit qu'il a tellement insisté pour qu'ils l'accompagnent chez lui. Il insiste, on ne peut pas rester dehors sur la place. Alors ils entrent chez lui et il leur prépare un repas, en faisant du pain sans levure, ce qui est assez intéressant. Avant qu'ils se couchent, tous les hommes de tous les quartiers de Sodome, jeunes et vieux, encerclèrent la maison. Ils appelèrent Lot, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amenez-les nous. J'utiliserai ici le King James, faites-les sortir pour que nous puissions les connaître. » Ok, donc quand l'écriture dit de « connaître », c'est comme un homme connaît sa femme. Savez-vous ce qu'est un euphémisme? U signifie bon, femme, est le mot grec pour « parle ». Un euphémisme, c'est quand vous dites quelque chose de bien à propos de quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Donc, fondamentalement, quand ils disent « faites-les sortir pour que nous puissions les connaître », en fait, la NIV le traduit correctement « faites-les sortir pour que nous puissions avoir des relations sexuelles avec eux ». Cela soulève cette question, qui est une question très difficile, mais bien sûr, le véritable problème ici est celui de l'hospitalité. Ces gens étaient inhospitaliers envers les visiteurs de leur ville et sont donc condamnés pour leur inhospitalité. C'est ça le péché de Sodome, cette inhospitalité. Ce que je viens de vous donner, c'est l'interprétation gay de ce passage. Cela n'avait rien à voir avec l'homosexualité, mais plutôt avec l'hospitalité. Maintenant, lorsque vous avez lu ce passage, avez-vous pensé à l'hospitalité? Vous dites, oui, ils étaient vraiment hospitaliers. Non. S'agit-il au fond d'un viol homosexuel? Alors, que se passe-t-il, ces gars? Eh bien, laissez-moi simplement lire le texte ici, où sont ces hommes qui sont venus chez vous ce soir? Amenez-les-nous, afin que nous les connaissions. L'eau sortit à leur rencontre, ferma la porte derrière lui et dit, « Non, mes amis, ne faites pas cette mauvaise chose. Écoutez, j'ai deux filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Combien d'entre vous s'en souviennent et grinçant des dents? Est-ce que vous dites simplement, « Rolikao, ce type a deux filles et il va juste les donner à ses loups. Ne faites rien à ces hommes car ils sont sous ma protection sur mon toit. » En d'autres termes, lorsque des invités venaient chez lui, était-il tenu de protéger ses invités par rapport aux membres de sa propre famille? Cela faisait partie de la coutume. Vous vous souvenez de ce type en Afghanistan? Il se serait battu jusqu'à la mort pour le protéger au-dessus de leur propre famille. C'est donc une réponse assez intéressante ici. Alors il dit, vous pouvez avoir mes filles. Est-ce un problème? Que font les pères pour leurs filles? Les pères protègent-ils leurs filles? Ne plaisantez pas avec mes filles. Tu veux venir demander à mes filles de t'épouser, tu dois venir parler au vieux. Lorsque vous parlez au vieil homme, le vieil homme s'assoit sur sa chaise et vous êtes assis là-bas. Le vieil homme croit à la communication non-verbale et il y a donc cette petite chose assise derrière lui, d'environ cette taille, avec un petit truc chachinque dessus, et elle se trouve juste derrière lui. Et le fait est que vous me posez des questions sur mes filles et que le système non-verbal est là. Au fait, qu'est-ce que cela veut dire communiquer? Si vous dérangez mes filles, est-ce que vous vous moquez de moi? Oui. Savez-vous ce qu'est un calibre 12? Je suis sérieux. Tu ne plaisantes pas avec mes filles. Mes deux filles sont mariées et elles ont toutes deux épousé des gars formidables, mieux que ce que j'aurais pu souhaiter. Il vous suffit de paramétrer les paramètres. Donc ce que je dis, c'est cette idée de mettre ces filles là-bas, pourquoi ferait-il cela? Cela serait dû en partie à ses lois sur l'hospitalité et il devait protéger les invités. Est-il possible, et ce n'est qu'une conjecture de ma part, que ce serait moins un péché pour eux de violer ces filles que pour ces hommes de commettre des actes homosexuels avec ces gars-là? Certaines personnes l'ont suggéré. Ce que vous avez ici est essentiellement un viol homosexuel. Maintenant, que se passe-t-il avec les anges? Vous jouez avec les anges et tout d'un coup, ces gars deviennent aveugles. Vous ne pouvez pas jouer avec eux. Les actes homosexuels sont-ils un péché? Et ce que je veux aborder maintenant, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous ont été formés dans des environnements et je sais que les environnements scolaires d'aujourd'hui forment les enfants, apprennent systématiquement aux enfants de la maternelle et au-delà que tout cela va bien. Et je veux vous dire que ce que je vous dis maintenant, dans 15 ans, sera considéré comme un discours de haine en Amérique. Maintenant, vous dites comment puis-je le savoir? Si je devais dire ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que les actes homosexuels sont un péché, si je disais qu'en Angleterre, cela serait considéré comme un discours de haine. Je pourrais être mis en prison en Angleterre. Il faut généralement environ 10 à 15 ans pour arriver ici, mais c'est en train de s'installer ici maintenant. La Bible a-t-elle un problème avec l'homosexualité? Eh bien, Sodome et Gomorrhe sont une déclaration assez claire. Vous dites que c'est un viol homosexuel, ce n'est pas deux amants homosexuels. Si vous rebondissez sur d'autres passages. Lévitique 18, 22 dit ceci, ne couchez pas avec un homme comme on couche avec une femme. Est-ce assez clair? On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme parce que c'est une abomination. Le verset suivant dit, n'ayez pas de relations sexuelles avec des animaux. La Bible le dit. Au fait, devrais-je dire, y a-t-il aujourd'hui des pays dans le monde où la bestialité est pratiquée? Il y a certains pays et nos troupes sont confrontées à cela assez régulièrement. Tout ce que je dis, c'est que ces choses sont dans les Écritures. Si vous consultez Romains 1, 26, c'est un autre de ces passages. Tous ces passages seront interprétés d'une manière différente. Évidemment, si une personne est gay, elle aura cette autre interprétation de ces passages. Quand vous les lisez, vous dites que ces passages sont assez clairs, comment pouvez-vous rater cela? Dans Romains chapitre 1, il est question du péché venant dans le monde et il y a cette spirale descendante et Dieu les abandonne et ils pêchent davantage, puis ils descendent en spirale et au verset 26 il est dit, à cause de cela, Dieu les a livrés à des esclaves honteux. Convoitise, même leurs femmes échangeaient des relations naturelles contre des relations contre nature. De la même manière, les hommes abandonnent également les relations naturelles avec les femmes et s'enflamment de convoitises les uns pour les autres. Les hommes commettent des actes indécents avec d'autres hommes. Est-ce que c'est assez clair? Un autre qui est très clair est 1 Corinthiens 6, 9 et il dit ceci, « Ne savez-vous pas que les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Ne vous laissez pas tromper, ni par le péché d'immoralité sexuelle, ni par l'idolâtrie. L'idolâtrie est-elle un péché dans les Écritures? L'idolâtrie est partout. Ni adultère, ni prostituée, ni délinquant homosexuel. À Corinthe, ils avaient des prostituées. Les délinquants homosexuels sont mis dans cette catégorie avec tout ça, je ne veux pas tout détailler mais la Bible est-elle assez cohérente sur ce point? Maintenant, que faire des homosexuels et comment les chrétiens devraient-ils réagir face à cette question de l'homosexualité? Je vais venir ici et vous raconter une histoire et quelque chose de base. Au fil des années, certains de mes meilleurs amis, d'ailleurs, j'enseignais dans une école très conservatrice de l'Indiana, et l'une de mes meilleures amies là-bas était lesbienne. Pour ce cours, je l'appellerai Suzy, ce n'était pas son vrai nom mais c'est exactement comme ça que je l'appellerai. Elle a été violée par son entraîneur de baseball quand elle avait 12 ans. Quand elle avait 16 ans, son oncle l'a emmenée dehors et l'a violée, et son oncle l'a emmenée dehors et a fait d'autres choses dont on ne peut même pas parler. Elle était tellement en colère contre les hommes qu'après avoir raconté ses histoires de sa vie, elle est sortie de mon bureau et a frappé le mur de blocs de béton de toutes ses forces et s'est presque cassé les jointures. C'était une fille coriace, très sportive et très forte en fait. Nous sommes donc devenus de très bons amis et elle ne pouvait pas rentrer chez elle et elle avait des problèmes mentaux alors ils l'ont mise dans un asile dans un hôpital et j'allais là-bas pour lui rendre visite et il y a ce type qui se tient là à environ 15 cm. Lui criant dessus. Je la connaissais très bien, et on pouvait voir qu'elle était sur le point de faire sauter ce type et de lui enlever la tête. En gros, j'ai signé ses papiers et nous l'avons fait sortir de là. Détestait-elle les hommes? Oui, elle détestait les hommes et je pensais qu'elle allait tuer ce type. Alors elle vient chez moi et est restée avec nous pendant un bon moment. Et mon fils revient des marines et ne le savait pas et il faisait des commentaires que je ne pensais pas qu'il devrait faire. Et j'ai dit, tu te souviens de Suzy? Suzy était lesbienne, donc tu dois y réfléchir à deux fois avant de dire ce genre de choses. Il a été complètement époustouflé. En fait, elle est venue et m'a aidé à construire un mur de béton. C'était la première fois que je posais des blocs et nous y avons fait face avec des briques et elle m'a aidé à le faire. C'était une très bonne travailleuse. Entre-temps, cela fait 3 jours que je travaille le béton et savez-vous ce qui arrive à vos mains lorsque vous travaillez le béton? J'ai cette règle, les vrais hommes ne portent pas de gants. Je sais que c'est stupide et ma femme me dit que c'est stupide. Donc je travaille le béton un jour et le béton sèche les mains au bout d'une journée. Le deuxième jour où vous travaillez avec le béton, vous commencez à avoir ces fissures entre vos mains. Le troisième jour, les blessures s'ouvrent et vous avez des plaies ouvertes sur les mains. Maintenant, Suzy appelle et dit, je dois aller à Fort Wayne pour un test du sida. C'est à ce moment-là que ces choses ont commencé à sortir, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas attraper le sida comme ça. Ce n'est pas grave aujourd'hui parce que nous pouvons le résoudre. Quoi qu'il en soit, nous ne savions pas à l'époque quel était le contrat et elle a dû passer ce test. Alors j'ai dit, bien sûr, je vais t'y emmener, parce que personne dans l'école ne savait ce qui se passait. Alors je suis allé là-bas et je n'oublierai jamais de conduire sur la route 30 et nous arrivons par Columbia City, à peu près à mi-chemin de Fort Wayne. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai ces blessures ouvertes sur les mains, et si elle sort de cette chose en pleurant et elle pleure sur moi, et je ne sais pas quoi faire. J'ai 4 enfants et une femme. Des choses comme ça vont et viennent dans ma tête. J'étais inquiet parce que je ne sais pas comment ces choses se propagent. Quand je me mets au fond de moi-même, je suis vraiment bouleversé et je ne sais pas quoi faire. En gros, je me demande, et je sais que cela semble anodin mais ce n'est pas anodin pour moi, je me demande, que ferait Jésus? Je sais, dites-vous, je sais ce que Jésus ferait, il dirait, soyez guéris. J'ai réalisé que si elle sortait et qu'elle pleurait, Jésus l'embrasserait-il et lui permettrait-il de pleurer sur lui. Elle est sortie de l'épreuve et elle avait les larmes aux yeux et oui, les larmes sont tombées sur moi. Après environ 2 ou 3 semaines, elle a reçu le test et elle ne l'a pas fait. J'étais aussi heureuse qu'elle. Elle a vraiment eu du mal avec certains de ces trucs. Quelle est la réponse chrétienne à l'homosexualité? Est-il possible d'aimer quelqu'un comme ça? Ma conclusion est la suivante, est-il possible de haïr le péché et d'aimer le pécheur? Permettez-moi de changer d'exemple. Laisse-moi utiliser mon beau-frère, je l'appellerai Charlie. Charlie a quelques années de plus que moi, il devait donc avoir la quarantaine. Il avait ce magnifique camion de 30 000 $. Mon beau-frère a vraiment du mal avec l'alcool. Il est sorti en état d'ébriété au volant, une mauvaise décision. Il détruit son camion, endommage la voiture de quelqu'un d'autre. Le gouvernement est après lui, alors que faire? J'ai ce maxi van avec environ 200 000 miles dessus, et nous maintenons là-haut et mettons tout ce qu'il possède dans ce maxi van et conduisons jusqu'à notre maison. Il est resté avec nous pendant environ 6 mois pendant sa convalescence. Question, aimons-nous Charlie? Mes enfants aiment-ils leur oncle Charlie? Oui. Question, est-ce que je déteste l'alcoolisme? Je l'ai souvent dit en classe et je le répète, si l'alcoolisme était là, comme s'il s'agissait d'une personne, et que je savais que si je le tuais juste devant vous, je pourrais détruire l'alcoolisme pour tout le monde? La face de la planète, je la tuerais à main nue juste devant vous. Je m'en fiche. Je perdrais mon emploi. Je m'en fiche. Je déteste l'alcoolisme. Je déteste ça. Je l'ai vu détruire. J'ai un ami qui est au cimetière maintenant à cause de ça. Je déteste ce truc. Boire et conduire. Quoi qu'il en soit, laissez-moi arrêter ça. Très bien, je déteste ça. Je le tuerai. Question, est-ce que j'aime mon beau-frère? Je viens de le voir dans le Wisconsin il y a environ 2 mois. Est-ce que j'aime ce gars? J'adore ce gars. Question, est-ce que je déteste les effets de l'alcoolisme? Oui. Est-il alors possible d'utiliser le même type de réflexion pour demander, est-il possible d'aimer quelqu'un qui est gay et de détester ce qui se passe dans sa vie? Et la vérité c'est que je n'oublierai jamais quand elle est partie, grâce, quand elle partait. Elle m'a fait un câlin que je ne pense jamais oublier. Au fait, est-ce qu'elle déteste les hommes? Oui. Elle déteste les hommes. Elle m'a fait un câlin puis elle m'a dit, il n'y a que 2 hommes dans ma vie en qui je pourrais avoir confiance. L'un était mon frère et tu es l'autre. Je vous dis que c'était il y a plus de 2 décennies. Question, est-ce que je m'en souviens comme si c'était hier? Oui. C'est l'une des choses les plus gentilles qu'on m'ait jamais dites. Quand elle est partie de là, a-t-elle lutté pendant des années? Est-ce quelque chose que vous venez de vérifier comme ça? Maintenant, je veux vous dire, quand ça vous envahit comme ça, ça prend des années. Maintenant, mon beau-frère, va-t-il lutter contre l'alcool pour le reste de sa vie? Ce sont en fait les cigarettes qui vont le tuer. Mais ce que je dis, c'est que j'aime ce gars. Mais il fume trop, il boit trop. Cela vous rattrape quand vous vieillissez. Mais ce que je veux dire, c'est, les gens auront-ils du mal à accepter cela? Et la réponse est oui. La communauté chrétienne doit-elle savoir aimer? Et ce que je dis, c'est sans aucun doute que dans une classe de cette taille, pour être honnête, il y a sans aucun doute des gens homosexuels dans cette salle. Les chrétiens devraient-ils savoir aimer au-delà de ce genre de frontières? Maintenant, cela signifie-t-il que j'accepte cela? Et la réponse vient des Romains. Romains dit, aimer ce qui est bien et détester ce qui est mal. Ce qui me dérange parfois ici, c'est qu'on semble aimer tout. Et la Bible dit, haïssez ce qui est mal. Ce que je dis, c'est, apprenez à haïr ce qui est mal. Mais est-il possible de haïr ce qui est mal et d'aimer quand même les gens qui voient leur vie se détruire? J'ai un autre ami qui est probablement l'un des hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Connaît le Nouveau Testament en grec et c'est un gars incroyable. Son fils s'est impliqué dans la drogue lourde et je parle de cocaïne et d'héroïne et des trucs comme ça. Son enfant était un enfant vraiment très brillant. Son père devait regarder son enfant descendre dans les tubes. Question, son père serait-il mort pour son fils?
Oui.
Et il ne peut rien faire?
Je veux dire, le gamin est impliqué dans tout ça et ça détruit sa vie.
Ainsi, le père aime son fils, mais déteste-t-il ce que les drogues peuvent faire pour détruire une personne?
Voyant cela, qu'a fait le père, maintenant qu'il est à la retraite?
Devinez avec quoi il travaille.
Il travaille dans une maison de transition et conseille des personnes toxicomanes.
Donc mon truc, c'est l'équilibre.
Je ne sais pas comment vous y parvenez exactement.
Mais aimer ce qui est bien et haïr ce qui est mal.
Il est important de haïr ce qui est mal tout en prenant soin des gens.
Au fait, est-ce ce que Jésus a fait?
Oui.
Vous dites, eh bien, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être comme Jésus.
Oui, essayez ça pendant un moment.
Être comme Jésus est difficile.
Cet équilibre et cette question sont donc difficiles.
Sortons de là.
En fait, c'est là mon objectif, et je suis désolé pour le jeu de mots, mais c'est l'essentiel, aimer le pécheur et haïr le péché.
Je pense que si vous vous contentez d'aimer le pécheur et qu'il n'y a pas de haine pour le péché, vous avez perdu.
Si vous êtes uniquement axé sur la haine du péché et que vous détestez la personne, alors je pense que là aussi vous avez perdu.
Je pense donc qu'il faut une tension et que c'est une tension assez difficile à réaliser.
Akeda, la liaison d'Isaac 42, 36-54, 05.
Or, ce texte est encore plus difficile.
C'est l'un des textes les plus incroyables de toute la Bible.
C'est le chapitre 22 de Genèse.
Je veux parcourir ce texte.
Jusqu'à ce point du livre de la Genèse, Dieu vient à Abraham et Dieu est le grand promesseur.
Il vient vers Abraham et chaque fois qu'il vient vers Abraham, il dit, Abraham, Abraham,
je vais te donner un fils.
Je vais vous donner une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, comme le sable du bord de la mer.
Je vais vous donner cette terre promise.
Je vais faire de toi une bénédiction pour le monde entier, pour toutes les nations, la terre, la semence, la bénédiction. Point.
Il ne cesse de répéter cette promesse d'alliance.
Et il ne cesse de lui dire, Abraham, tu vas avoir un fils, pas Ismaël.
Abraham, tu vas avoir un fils, pas Élisère.
Abraham, tu vas avoir un fils de Sarah.
Et Abraham attend d'être un vieil homme, il aura presque 100 ans ou peu importe, quand il aura cet enfant.
Il a attendu longtemps.
Maintenant, au chapitre 22, Dieu change de rôle.
Ici, Dieu n'est plus le prometteur.
Maintenant, Dieu joue un nouveau rôle, il teste Abraham.
Dieu change donc son rôle auprès d'Abraham.
Il va le tester.
Chapitre 22 Alors, permettez-moi de commencer par ceci.
Il est dit, quelque temps plus tard, Dieu testa Abraham et lui dit Abraham.
Me voici, répondit-il.
Et puis Dieu a dit, prends ton fils unique, Isaac.
Il est le fils de la promesse, celui que vous avez attendu si longtemps, celui avec Sarah, l'enfant spécial, Isaac, rire.
Vous l'emmenez le gamin à probablement environ 16 ans maintenant.
Alors, les parents s'attachent-ils à leurs enfants avec le temps?
Alors il aime ce gamin et maintenant, prends ton fils, que tu aimes, et va dans la région de Moriah.
Sacrifiez-le là en holocauste.
Et vous dites, eh bien, nous connaissons les Halakostes.
Nous venons de commencer le livre du Lévitique.
Oui, quel est le problème avec l'Holocauste?
On appelle généralement cela une offrande entièrement brûlée.
Quand il est question de l'Holocauste en entier, que se passe-t-il généralement?
L'enfant va-t-il s'en sortir?
Non.
Quand vous êtes un Holocauste entier, tout est brûlé.
Vous êtes frit.
Va au mont Morija et là, sacrifie-le en holocauste sur l'une des montagnes dont je te parlerai.
Il semble y avoir un endroit précis, sur l'une des montagnes dont je vais vous parler.
Pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans la tête d'Abraham maintenant?
Dieu vient de lui dire de sacrifier cet enfant qu'il attend, qu'il aime.
Cela doit être incroyablement dévastateur.
Que dit le verset suivant?
C'est très intéressant de voir comment le texte fait cela.
Voici le verset suivant, tôt le lendemain matin, Abraham se leva.
Voyez-vous, si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez vous lever tôt parce que, celui qui se lève tôt attrape le ver. C'est vraiment important qu'il se lève tôt le matin. Tôt le matin, il faut se lever tôt le matin. Puis, après s'être levé tôt le matin, il sella son âne. Si vous partez en balade pendant 3 jours vers le nord, vous devez seller un âne. Vous allez monter un âne, vous devez donc le seller. Alors il s'est levé tôt, il sellait son âne, et il prit avec lui 2 serviteurs. Maintenant, vous avez besoin des serviteurs parce que vous devez transporter tout ce bois pour le feu et vous avez besoin des serviteurs pour vous aider. Il avait donc 2 domestiques qui l'aidaient. Il emmena avec lui les 2 serviteurs et son fils Isaac. Quand il a coupé suffisamment de bois, oh, ouais, si vous voulez faire un sacrifice, vous avez besoin de bois pour y brûler, donc c'est très important aussi. Si vous voulez offrir un sacrifice à Dieu, vous devez apporter du bois. Vous ne voulez pas vous retrouver sans bois. Il coupa donc le bois pour l'holocauste et se rendit à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Ce que cela prouve, c'est que les sentiments d'Abraham n'ont pas d'importance. Y a-t-il ici une mention des sentiments d'Abraham? Pas une. Abraham s'est levé tôt, a sellé son âne, a coupé le bois sans aucune émotion. Il a simplement obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu, il n'y a pas de place pour les sentiments. Ce texte ne mentionne même pas la lutte qu'Abraham a menée. Ce n'est pas important. Il a simplement obéi à Dieu. Question, est-ce vrai? Non, ce n'est pas bien. Le texte vous fonctionne t-il ici? Il s'agit de sceller l'âne. Cela vous importe t-il qu'il scelle son âne? Il a coupé le bois. Cela vous importe t-il qu'il coupe le bois ou non? Vous en souciez-vous qu'il ait emmené 2 serviteurs avec lui? Vous ne vous en souciez pas. Est-ce que cela vous donne toutes les informations superflues? Pourquoi fait-il ça? Cela vous invite dans le texte. Cela vous donne toute la place, en énumérant ce genre de choses folles qui n'ont presque rien à voir avec quoi que ce soit, et cela vous invite à vous demander, qui doit fournir les sentiments d'Abraham dans ce récit? Le lecteur. Il vous appelle, en tant que lecteur, vous raconte toutes ces choses superflues pour vous inviter à dire, « Sainte vache, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» Pour que vous puissiez ressentir ce qu'Abraham ressent et c'est une invitation en vous racontant tous ces détails superflus. Je pense que c'est une invitation qui vous donne l'espace pour vous demander, que ressentiriez-vous si Dieu vous demandait d'abandonner votre fils? Alors il descendit et dit à ses serviteurs, restez ici avec les ânes pendant que nous allons adorer, puis nous reviendrons. Le Nouveau Testament cite ceci, Abraham pensait que même s'il le tuait, Dieu le ressusciterait des morts. Est-ce plutôt bien de ne rien savoir de Jésus à cette époque? Est-ce que ce type croit Dieu? Abraham a pris le bois et l'holocauste et il descend et puis Isaac apparaît et Isaac va dire quelques mots. Maintenant, j'ai oublié d'appuyer sur les boutons ici, mais laissez-moi juste vous dire que cette histoire ici s'appelle « l'Akéda ». Dans les cercles juifs, il s'agit d'un passage célèbre pour le peuple juif et on l'appelle « l'Akéda ». L'Akéda fait référence à la liaison d'Isaac. Akéda signifie contraignant. C'est donc la liaison d'Isaac. C'est la liaison du passage d'Isaac. C'est un passage célèbre où il y a tant de luttes pour un fils après tout ce temps. Maintenant, tir rapide, aucune émotion n'est montrée. Ce que je dis, c'est qu'il s'agit d'une bonne littérature. Cette bonne littérature vous invite dans l'histoire. Vous devez fournir les émotions, les tensions et le pathétique du récit. Dieu le baigneur se tourne vers Dieu le testeur. Dieu opère donc ce changement massif ici. Une obéissance douloureuse est ce que vous avez, laissez-moi simplement lire une partie du reste de l'histoire ici. Il est écrit, Abraham répondit. Introduisons Isaac dans cette histoire. Vous pouvez voir qu'Isaac a environ 16 ans, n'est-ce pas? Le père a quel âge? Le père a plusieurs centaines d'années, l'enfant a 16 ans, n'est-ce pas? Et l'enfant dit, papa, maman a-t-elle oublié de te le dire? As-tu oublié quelque chose ici, papa? Comme si nous avions le bois et le feu, d'accord, papa, mais où est l'agneau? Est-ce que maman a oublié de te rappeler d'apporter l'agneau? Ainsi Isaac dit ici, père. Oui, mon fils. Le feu et le bois sont ici, mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Papa, tu as oublié quelque chose.
Alors Abraham dit, maintenant vérifiez ceci, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'holocauste.
Entendez-vous l'écho?
C'est un écho de 2000 ans.
Dieu lui-même, mon fils, pourvoira à l'agneau.
Est-ce que Dieu le fait réellement?
L'agneau est son fils.
Y a-t-il quelqu'un de baptiste ici?
Et vous partez avec ce type Jean-Baptiste et que dit Jean-Baptiste?
Il dit, voici le, quoi?
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme il l'annonce Jésus-Christ.
Ce passage fait donc écho à Jésus-Christ.
On dit à Abraham d'offrir son fils.
Abraham est épargné de le faire.
Dieu ira-t-il réellement jusqu'au bout?
Maintenant, cela soulève beaucoup de choses.
Y a-t-il parmi vous des philosophes ici?
Les philosophes comprennent probablement les choses mieux que moi.
Il y a un gars qui s'appelle Søren Kierkegaard.
Il a écrit un livre intitulé Firendtremblin.
Pour être honnête avec vous, j'ai dû lire l'ouvrage 3 fois avant de pouvoir comprendre et apprécier ce qu'il faisait, mais c'était l'un des livres les plus profonds que j'ai jamais lu.
Cela s'appelle Firendtremblin et est construit à partir de ce récit.
C'est un truc très court, environ 40-50e page, mais c'est absolument profond.
Il y a un AN, j'ai eu beaucoup de mal avec ce passage.
Il y a un AN, mon fils était en Afghanistan.
Mon fils est une, botte.
Une, botte, signifie qu'en gros, c'est un marine et cela signifie qu'il est au sol et cela signifie qu'il a un M16.
Il est caporal suppléant dans l'infanterie.
Il possède en fait une mitrailleuse de calibre 50 et c'est une personne du genre sur le terrain.
Chaque jour, il sortait et il nous appelait pour nous le dire. Chaque jour où il sortait du périmètre, on leur tirait dessus.
Son meilleur ami a reçu une balle en plein dans le cou.
Il a raté de 1 mm son artère principale.
Nous avons une vidéo de Redley courant vers l'hélicoptère alors qu'il a reçu une balle dans le cou, mettant une compresse sur son propre cou alors qu'il court vers l'hélicoptère.
Il faut le savoir, ce type est totalement courageux.
Mais il a reçu une balle dans le cou.
D'autres amis de mon fils n'ont pas survécu, ils n'ont pas eu cette chance.
Parfois, la balle allait au mauvais endroit.
Twig est mort, l'un de ses meilleurs amis.
D'autres amis dont je ne veux même pas parler.
Il a tout vu.
Il a vu des choses que les êtres humains ne devraient jamais voir de leur vie.
Il a tout vu.
Je suis dans le Massachusetts avec ma classe d'Ancien Testament qui enseigne l'Ancien Testament.
Mon fils est en Afghanistan et se fait tirer dessus tous les jours pendant 28 jours d'affilée, alors qu'il était hors du périmètre.
Il a à peine dormi parce que quand on dort, on ne sait jamais.
Juste comme ça, ces gars peuvent être sur vous et donc il a très peu dormi.
Il ne dort toujours pas jusqu'à ce jour.
Alors de toute façon, ai-je appris à prier Dieu?
Ai-je dû lâcher mon fils et dire, mon Dieu, tu vas devoir prendre soin de lui.
Maintenant, question, un père doit-il protéger son enfant?
Maintenant, tu dis que tu ne connais pas Elliot.
Il est grand, il mesure 6'2", 6'3", 220 livres maintenant.
Il prend soin de lui maintenant.
Mais question, il lui tire dessus et je ne peux pas le protéger.
Mon enfant est là et je ne peux pas le protéger.
Je protège toujours mes enfants.
Alors je me sens impuissant.
Quand vous vous sentez impuissant, que faites-vous?
Tu pries.
Parce que c'est tout ce que tu as.
J'ai beaucoup appris sur la prière l'année dernière.
La vérité honnête était que la plupart du temps l'année dernière, je priais pour que Dieu me tue.
J'ai juste dit, mon Dieu, le vieil homme passe en premier.
L'enfant doit le savoir, le vieil homme commence.
Dieu épargne sa vie.
Si vous voulez emmener quelqu'un, emmenez-moi, ne le prenez pas, épargnez-le, j'y vais.
Prends-moi, prends-moi maintenant.
Emmène-moi devant un Ancien Testament.
Je me fiche de l'endroit où tu m'emmènes.
Prends-moi, laisse-le vivre.
Maintenant, il se trouve que Dieu l'a ramené ici et physiquement, il n'a pas été blessé ou quoi que ce soit du genre.
Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête?
Oui.
Quoi qu'il en soit, nous travaillons avec cela maintenant.
Nous aimons et sommes fiers de notre fils.
Ce que je dis, c'est ce sentiment d'impuissance et de demande de Dieu et vous devez abandonner quelque chose comme ça. J'ai appris quelque chose sur cette histoire, maintenant, cela n'a plus d'importance. J'y étape du développement de la foi 54, 06-61, 23. Permettez-moi de me rapprocher un peu de cela et je veux parler des différentes étapes de la foi, des différentes étapes du développement de la foi. Je veux en examiner trois que je viens de construire à partir de ce récit. Je veux d'abord parler de foi facile. Certaines personnes acceptent Jésus comme leur sauveur parce que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous obtenez l'éternité gratuitement. Vous allez au paradis et marchez dans des rues dorées. Tout est bien. Dieu change votre vie. Vos péchés sont pardonnés et tout va bien. Vous apprenez la joie. Vous recevez de Jésus la joie, la paix et toutes ces choses merveilleuses. C'est pourquoi je veux appeler cela la foi facile. En d'autres termes, vous acceptez Jésus pour ce que vous allez obtenir et vous allez obtenir toutes ces choses merveilleuses. Je veux appeler cela une foi facile. Au fait, est-ce que certains d'entre vous ont connu Jésus parce que c'était ce que vous alliez retirer de Jésus? Je veux dire pour moi-même, c'est probablement vrai. C'est la foi facile. Il y a un autre niveau après cela que je veux appeler la foi de la résignation. C'est là que Dieu vous demande de renoncer à quelque chose. Dans mon cas, lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais un emploi d'ingénieur système au Cornell Aeronautics Lab et le gars voulait m'embaucher. Cela aurait rapporté 50 000 $, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque. Je me rends compte que ce n'est plus autant aujourd'hui, mais nous parlons d'après la guerre civile, lorsque cela représentait beaucoup d'argent. J'ai regardé le travail et j'ai pensé, vous savez, je pense que Dieu m'appelle ailleurs. J'ai dit au gars du travail, je vais aller au séminaire. Maintenant, quand vous allez au séminaire, au lieu de gagner 50 000 $ et de devenir riche, vous allez au séminaire et vous devenez instantanément pauvre. Puis je me suis marié et tu deviens vraiment pauvre. C'est bien d'être pauvre soi-même mais quand on se marie, il faut soutenir cette autre personne. Cela coûte cher et vous ne pouvez plus faire de raccourcis comme avant. Comme faire du vélo 25 miles par jour à travers le centre-ville de Buffalo et tout, parce que maintenant elle ne veut plus rouler à l'arrière de votre vélo. Alors maintenant, vous devez réellement vous procurer une voiture et la faire fonctionner. Mais j'ai regardé ça et j'ai dit quoi? Est-ce que je considère ce travail comme une poubelle? La foi de la résignation me permet de déprécier ou de diminuer, de minimiser, de penser à cette chose que j'aurais pu avoir et de la diminuer et de dire, de toute façon, je ne le voulais pas, ce n'était pas bon. De toute façon, cela n'aurait pas été bon pour moi. Cela n'aurait probablement pas été le cas. Alors je diminue, je déprécie ou dévalorise, je mets de côté ce que Dieu exigeait de moi. Je dévalorise, ou je déprécie ce que Dieu m'a pris. Paul dit ceci, les choses que je considérais comme un gain sont pour moi considérées comme des déchets. Je n'en veux pas. Dieu les a pris et ce n'est pas grave. Quand je déprécie ce que Dieu a pris, c'est la foi de la résignation. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas Abraham. Abraham peut-il dévaloriser son fils et dire, oh, de toute façon, il n'était pas vraiment un fils. Peut-il faire ça? Non. Et c'est la prochaine étape de la foi que je veux juste évoquer ici. Ce que je veux appeler cette foi pure, déraisonnable. C'est la foi pure, où Dieu vous demande ce que je veux appeler le précieux. Désolé pour les connotations de cela, mais Dieu dit, je veux le précieux. Maintenant, remarquez que je dis le précieux. Combien en avez-vous? Vous n'en avez qu'un. Et Dieu dit, je le veux. Quand Dieu vous demande, le précieux, pouvez-vous dire que cela ne veut rien dire pour moi? J'ai abandonné et ça ne veut rien dire, puis-je dire ça de mon fils? Je l'abandonne et je le confie à Dieu. Il ne représente rien pour moi. Non. Est-ce que c'est comme si tu abandonnais ton âme? La chose la plus importante dans votre vie, il n'y en a qu'une. Il demande cette seule chose. Vous ne pouvez pas le déprécier, vous ne pouvez pas le dévaloriser. Abraham, je veux ton fils. absolument dévastateur. Certains critiques regardent ce passage de la Bible et disent, quel Dieu cruel qui soumettrait quelqu'un à ce genre de jeu avec des êtres humains comme celui-ci. J'ai eu un gars le semestre dernier et à la fin du semestre, j'ai demandé, qu'as-tu appris dans le cours sur l'Ancien Testament? Il a dit, j'ai appris que Dieu est cruel et qu'il aime tuer les gens. Excusez-moi, avez-vous lu le même livre que moi? Non, il ne l'a pas fait, il n'a malheureusement pas compris l'essentiel. C'est donc avec cela qu'il est reparti, triste, vraiment triste. Comprenez-vous vraiment ce qui se passe ici? Dieu est-il cruel ici? Je ne pense pas. Je pense qu'il se passe autre chose. C'est énorme pour Abraham, absolument énorme. Quel est le titre d'Abraham? Abraham est appelé l'ami de Dieu. Comment savoir si vous avez un très très bon ami? Un bon ami sait-il ce que vous ressentez dans vos tripes? Est-ce qu'un bon ami vous connaît, bon, mauvais et laid? Est-ce qu'un bon ami vous connaît parfaitement? Un bon ami sympathise-t-il avec vos blessures et vos douleurs? Un bon ami vous connaîtra-t-il dans le chagrin? Que fera un bon ami? Est-ce qu'un bon ami, lorsque vous êtes en deuil, vous donnera des conseils? Si quelqu'un souffre, vous lui donnez des conseils, n'est-ce pas? Faux. Vous pleurez avec ceux qui pleurent. Avez-vous des amis qui savent comment faire votre deuil? Maintenant, je veux juste travailler avec Dieu. Dieu va-t-il aller jusqu'au bout du sacrifice de son fils? Est-ce que Dieu va aller jusqu'au bout? Question, Abraham peut-il comprendre une partie de cela maintenant? Qu'est-ce que ça fait de devoir sacrifier son fils? J'ai souvent pensé, que ferais-je si j'étais Dieu et mon fils, Elliot, et qu'il le frappait et qu'il était sur le point de le crucifier et que j'étais Dieu, que ferais-je? Vous pouvez simplement imaginer. Et, vous aimez les atomes. Regardez vos atomes exploser partout dans l'univers. Ou peut-être que vous prenez simplement votre doigt comme ceci. Oh, vous les gars sur la planète Terre et vous battez mon fils comme ça. Regarde ça. Et vous dites, flic, et tout d'un coup, la Terre est passée comme Pluton. Et, il fait un peu froid dehors car ils sont instantanément gelés. Ce que je dis, c'est que si vous deviez voir votre fils battu et mis à mort sur une croix, qu'est-ce que cela vous apprend sur Dieu? Ce que cela me dit à propos de Dieu, c'est, Dieu nous aime-t-il? Il aurait pu faire, flic, et j'ai fait frire tout l'endroit. Leur permet-il de battre et de massacrer son fils dans une mort brutale et brutale? Pourtant, cela vous indique simplement l'étendue de l'amour de Dieu. Je suppose que c'est ce que je veux faire comprendre avec ce point, c'est l'étendue de l'amour de Dieu. Cadoublement spatial 61, 24-62, 52. Abraham est donc l'ami de Dieu. Abraham sait ce que Dieu ressent. Il est donc son ami parce que Dieu lui a permis d'entrer dans cet espace sacré. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Remarquez qu'il est dit à Abraham de faire un voyage de 3 jours vers le nord jusqu'à une montagne appelée Moriah. Où se trouve le mont Moriah? Jérusalem. Où Jésus mourait-il? Jérusalem. Comprenez-vous cela? C'est ce que j'appellerai le « doublement spatial ». Cela m'est arrivé une fois dans ma vie. Ma fille est née à l'hôpital de Varsovie, dans l'Indiana, et j'ai assisté à toutes les naissances de mes enfants. 16 ans plus tard, mon petit-fils est né dans ce même hôpital et je jure que c'était la même chambre. J'étais dans la pièce et ma tête rebondissait entre 16 ans entre le moment où elle était là et le moment où mon petit-fils était là. Je rebondissais mentalement d'avant en arrière. C'était la chose la plus étrange qui soit. Je veux appeler cela un « doublement spatial » où la même chose se produit, une sorte de chose de déjà-vu. Dieu l'emmène au mont Moriah à Jérusalem et c'est absolument incroyable. Je pense donc qu'il définit le lieu et dit, Abraham, je veux que tu sois à l'endroit même où mon fils serait sacrifié 2000 ans plus tard. Alors allez là où ça va se passer dans cet endroit. El Jacob, conflits et tromperies 62, 53-63, 55. C'est tout. D'accord, alors faisons Jacob. Jacob est beaucoup plus facile en fait. Je pense que nous pouvons nous identifier davantage à Jacob. Nous avons ici Jacob, conflits et tromperies. Jacob sera le fils d'Isaac. Rappelez-vous que nous avons Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez des conflits et de la tromperie ici. À propos, ce sont des conflits et des tromperies qui se sont construits. Jacob a combien de noms? Connaissez-vous les deux noms de Jacob? Jacob, ce n'est pas exactement la racine du problème, mais cela ressemble à cette notion de tromperie. Le conflit sera ce que signifie Israël. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Ainsi Israël et Jacob, ce sont ces deux noms, tromperie, Jacob, Israël, conflit. Les conflits et les tromperies sont des thèmes majeurs dans la vie de Jacob. Monsieur Prédestination et Libre Arbitre 63, 56-69, 44. Nous voulons donc aborder Jacob ici. Image d'enfance, Jacob est né au chapitre 25 de la Genèse et sa mère, Rebecca, va avoir deux enfants. Il est dit ceci, Isaac a prié le Seigneur en faveur de sa femme parce qu'elle était stérile. Le Seigneur a répondu à sa prière et sa femme Rebecca est tombée enceinte. Et les bébés se sont bousculés et elle a dit, « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Elle alla donc consulter le Seigneur et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton sein et deux peuples seront séparés de ton sein. Un peuple sera plus fort que l'autre et les plus âgés serviront les plus jeunes. » Alors dès la naissance, qui a été choisi? Jacob a été choisi. C'est tout ce qui compte. Jacob est choisi. Ce qui veut dire alors qu'il n'est pas choisi. Ésaü. Cela devient donc une question sur la façon dont Dieu peut choisir l'un et rejeter l'autre avant même leur naissance. Et Ésaü avait-il une chance? Jacob était celui qui avait été choisi avant sa naissance. Alors que faire de tout ce genre de déterminisme? Cela soulève la question de la prédestination contre le libre arbitre. Dieu les a prédestinés avant leur naissance. Jacob serait l'enfant du choix et Ésaü ne le serait pas. Dans quelle mesure cela relève-t-il de la prédestination, choisie et fixée? Et dans quelle mesure cela relève-t-il du libre arbitre? Vous devriez reconnaître dans ce cours, avons-nous développé dès le jardin d'Éden la capacité des êtres humains à faire des choix? Est-ce un thème important dans les Écritures, la capacité des êtres humains à faire des choix? Mais ici, le côté prédestination apparaît, Dieu choisit Jacob avant même sa naissance. Soit dit en passant, si vous passez au chapitre 1 de Malachie ou à l'épître aux Romains. Permettez-moi de faire Romains 9, mais il cite Malachie. Romains 9.13 Je pense qu'il est dit, afin que le dessein de Dieu dans l'élection soit confirmé, non par les œuvres mais par celui qui appelle on lui dit, elle, étant Rebecca, l'aînée servira la plus jeune. Tout comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant même leur naissance, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et Ésaü avait-il une chance? Qu'est-ce que cela signifie que Dieu détestait Ésaü? Quel est le problème avec ça? Certaines personnes considèrent cet amour / haine comme une sorte de comparaison. C'est donc Dieu qui dit, j'aime davantage Jacob. Ésaü était moins aimé. C'était donc plus ou moins une sorte de chose. Cela ne signifiait pas une haine absolue, c'était juste, plus, une chose relative. Je pense qu'une meilleure façon d'expliquer cela est probablement de travailler avec la terminologie de l'Alliance. Aimer, quelqu'un signifiait, le choisir, haïr, signifiait, ne pas les choisir. La terminologie amour / haine est donc la terminologie de l'Alliance. Dieu fait une alliance avec l'un, il ne fait pas d'alliance avec l'autre. C'est donc un grand débat et nous devrions nous demander si une personne n'est pas choisie, est-elle toujours responsable? Ésaü était-il responsable? Qu'aurait dû faire Ésaü? Maintenant, Ésaü se transforme-t-il en une personne vraiment profane? Est-il possible que Ésaü ait dit, Jacob est l'élu, et ait choisi de se mettre sous Jacob et de le soutenir dans son rôle? Est-ce possible? Est-ce que quelqu'un se souvient qu'il y a un gars nommé Moïse dans Exode? Qui est le frère aîné de Moïse? Aaron. Qui est sa sœur aînée? Myriam. Myriam et Aaron sont donc plus âgés, mais qui est celui que Dieu choisit pour diriger Israël? Moïse. Aaron et Myriam doivent-ils s'effondrer pour soutenir Moïse? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Sauf dans numéro 12, il y a une certaine controverse, mais la plupart du temps c'est ce qu'ils font. Ils se mettent sous lui. Est-ce ce que Ésaü aurait dû faire? Il aurait dû se prononcer en faveur de Jacob? Maintenant, Ésaü fait-il cela ou Ésaü veut-il tuer son frère? On rentre donc là dans une tension. Ce que je veux suggérer, c'est que Ésaü a quand même fait des choix. Il avait encore le choix sur la façon dont il allait réagir à cela. Ainsi, une personne qui n'est pas choisie reste responsable. Est-ce juste? Oui, c'est juste. Dieu choisit, au fait, la vie est-elle juste? Mon fils a vraiment du mal avec ça à un certain niveau. Que serait-il arrivé s'il était né en Afghanistan? Sa vie aurait-elle été totalement, absolument différente de celle d'être né en Amérique et d'avoir son vieil homme professeur? Au fait, vos vies sont-elles toutes différentes? La vie est-elle juste? Est-ce que tout le monde dans cette classe est exactement sur le même terrain de jeu ou venez-vous tous d'horizons différents avec des avantages et des inconvénients dans divers domaines? Oui, nous sommes tous différents. Cette idée selon laquelle tout doit être égal sur le terrain de jeu de la vie est folle. La vie est-elle juste? Non, c'est comme ça. Je suis né dans une famille pauvre. Mes frères et sœurs sont à peine allés à l'université. Nous n'avions ni l'argent, ni les provisions. Les autres enfants sont tous allés à l'université. Nous avons des familles différentes, il faut travailler avec ça. N11 et naissance de Jacob et Ésaü 69, 45-71, 45. Alors maintenant, voici les noms des deux garçons. Je veux travailler un peu là-dessus. Le nom de Jacob a le son de, ce n'est pas nécessairement lié étymologiquement, mais le son n'est que son nom signifie, talon. Jacob ressemble aussi à, trompeur. Le nom ressemble à, trompeur, et, à grippeur de talon. Quand ils sont nés, quand ils sont sortis, et Ésaü est sorti, quoi? Rouge et poilu, Jacob sortit en attrapant le talon de son frère. Ils l'ont donc appelé essentiellement un écho de ce terme, talon, qui est Jacob et plus tard, ce terme est également lié à, trompeur. Et Ésaü sort et il est tout rouge. Rouge rouge, il m'appelle, rouge. Son nom est, Big Red. Fondamentalement, Ésaü est, Big Red. Les descendants d'Ésaü deviennent les Édomites. Le, DM, en hébreu signifie, rouge. Idem sera donc associé au rouge. Au fait, quelle est la couleur des rochers dans le pays d'Édom? Quelqu'un a-t-il déjà vu la photo de Petra? Ils sont rouges? C'est du grès rouge nubien. L'endroit où il vient habiter est du grès rouge, au pays d'Édom. Et puis, au fait, c'est juste moi qui suis plutôt drôle, mais pas vraiment. Chaque fois que vous voyez les Édomites dans les Écritures, que feront les Édomites, les descendants d'Ésaü, presque à chaque fois? Ils tueront des Juifs. Les Édomites tuent les Juifs. C'est ce qu'ils font. Il y aura donc toujours cette tension avec les Juifs. Ils vont tuer beaucoup de Juifs. Ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü, Seir, comme on l'appelle. Seir, signifie, poilu. Donc, en gros, nous avons un enfant nommé Harry, poilu, ou Big Red. C'est son nom. D'ailleurs, nous appelons encore les gens aujourd'hui Harry, orthographié avec deux R. Mais son nom est Harry, car il était tout poilu depuis le début. Et donc Big Red est là. Au Jacob et Ésaü et le droit d'aînesse du ragoût rouge 71, 46-73, 11. Dans le chapitre 25, ici à la fin, permettez-moi de raconter cette histoire. Alors Ésaü part à la chasse. C'est un chasseur. Jacob est un homme de terrain. Jacob a du ragoût. Au fait, de quelle couleur était le ragoût? Ragoût rouge. Comprenez-vous le jeu sur, rouge, ici? Ragoût rouge pour Big Red. Alors Big Red arrive et il meurt de faim. Il est parti à la chasse et n'a pas de nourriture. Il vient voir Jacob et Jacob prend ce ragoût rouge. Et, Red, tu veux du ragoût rouge? Rouge Ésaü dit, je vais mourir de faim. À quoi sert mon droit d'aînesse? Donc, fondamentalement, Jacob troque le droit d'aînesse. Jacob dit, donne-moi le droit d'aînesse et je te donnerai le ragoût. Ésaü dit, je vais mourir si je n'obtiens pas ce ragoût, alors qui se soucie du droit d'aînesse? Il ne le fait pas. Au fait, était-ce légitime de troquer le droit d'aînesse? Et la réponse est oui. Nous le savons maintenant grâce à ces lois Nusu. En fait, nous avons des lois qui disent qu'il est absolument légal de troquer son droit de naissance. Il troque tout et votre droit d'aînesse peut être troqué. Juste parce que c'était légal, ça veut dire que c'était sympa. Jacob était-il gentil avec son frère quand il n'avait pas de nourriture? Donc je veux dire, c'est légal. Nous savons que c'est légal, mais nous disons que nous ne sommes pas sûrs que ce soit la chose la plus agréable à faire avec Ésaü. P. Jacob ment à Isaac 73, 12-77, 7. Maintenant, la tromperie d'Isaac, que se passe-t-il ici? Il y a un verset vraiment méchant au chapitre 25, verset 28. Regardez ceci, Isaac, qui avait le goût du gibier sauvage, aimait Ésaü. Mais Rebecca aimait Jacob. Que se passe-t-il lorsque le père aime un enfant et que la mère aime l'autre enfant? Le favoritisme parental mène à quoi? La rivalité fraternelle. Vous obtenez donc des affrontements entre frères et sœurs. Lorsque les parents favorisent un enfant plutôt qu'un autre, cela va provoquer une guerre entre les enfants. Voilà donc le problème du favoritisme parental, le père aime Ésaü, la mère aime Jacob. Maintenant, il va y avoir un problème majeur ici. Maintenant, que se passe-t-il? Isaac est vieux. Il est aveugle. Il ne peut pas voir. Il appelle son fils Ésaü et lui dit, « Ésaü, je veux juste le meilleur steak de tous les temps. Alors sortez, tirez sur l'animal, ramenez-le et cuisinez-le comme je l'aime. Alors, quand tu le ramèneras, je te bénirai. » Ésaü part en camion avec son arc et ses flèches et il va sortir chercher cet animal. Qui entend l'appel téléphonique? Rebecca est là, elle surprend tout. Elle projette, et, Jacob, nous devons agir maintenant. Ton père est aveugle. Profitez-vous des aveugles. Bien sûr. Papa ne peut pas te voir et donc tu vas y aller. Mais quel est le problème? Papa ne peut pas te voir mais Harry est quoi? Harry est poilu. Alors Jacob dit, je ne pense pas, alors la mère dit, d'accord, donne-moi une chèvre, nous allons la cuisiner. D'ailleurs, je devrais le dire aussi. Savez-vous que les chèvres en Palestine, si jamais vous touchez le dos de ces chèvres, vous avez des échardes dans les mains. Le poil des chèvres est si dru et si épais qu'il n'y a aucun être humain sur la surface de la terre qui ait un poil aussi épais et dru. Ce n'est donc pas le derrière de ces chèvres. Ce sont des cheveux vraiment méchants. Sur le dessous des chèvres, au niveau des aisselles et du dessous, il y a des poils très fins presque comme du cuir souple. C'est donc ce qu'elle a dû retirer et lui mettre. Alors elle le lui met. Jacob dit, « Me voici avec la nourriture, papa. » Et tout d'un coup, c'est comme, et, sa voix ressemble à celle de quelqu'un d'autre. Il l'appelle là-bas. Ce qu'elle fait. Attrape-t-il Jacob, le cou et les mains. Et il dit, « Oh, ce gars est poilu, ça doit être Harry. » Alors il mange la nourriture. Il bénit Jacob et lui donne toutes les bénédictions. Puis Jacob sort au trot et qui entre ensuite au trot. Et Ésaü entrait, « Me voici, ton fils est Ésaü, que tu aimes. » Puis le père panique en réalisant qu'il a été trompé. Donc le père a été trompé à ce stade et vous obtenez cette tension qui va alors être entre Jacob et Ésaü. Qui reçoit la bénédiction. Le père s'est-il rendu compte qu'il avait mal agi? Ésaü dit, qu'est-ce qu'il y a papa, tu n'as qu'une seule bénédiction. Isaac dit, j'ai béni Jacob et il sera béni. Je pense qu'Isaac a réalisé qu'il aurait dû bénir Jacob parce que c'était la promesse de Dieu. Au fait, Dieu utilise-t-il toute cette ruse et ce mal pour accomplir ses desseins? Dieu utilise même le mal humain pour accomplir ses desseins. Il y aura un conflit la prochaine fois et la prochaine fois, nous examinerons ce conflit de ce qui s'est passé avec cette lutte entre Jacob et Ésaü pour cette bénédiction du Père. Certains d'entre vous ont-ils ressenti la bénédiction de leur Père? Permettez-moi de terminer là. La bénédiction du Père est-elle importante pour vous? J'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 42 ans environ pour ressentir la bénédiction de mon père. Je veux juste dire que certains d'entre vous savent ce que signifie avoir la bénédiction de son père. C'est une belle chose. Nous traiterons donc ensuite de Jacob et d'Ésaü. Nous vous reverrons la prochaine fois. Commencez à travailler sur les nombres. Il s'agit du Dr Ted Hildebrandt dans la conférence 9 d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament sur Abraham, Sodome et Gomorre, l'Akeda ou la liaison d'Isaac et le début de l'histoire de Jacob. Transcrit par Elisabeth Elohine et Lorraine Quin. Brut édité par Ted Hildebrandt II.